lundi 15 avril. Ici Carl Marchand. Voici les nouvelles. Bonne fin d'avant-midi, mesdames et messieurs. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Donald Trump à New York. Il devient le premier ancien président américain à faire face à la justice pénale. 34 accusations de falsification de documents pèsent contre lui. L'affaire concerne des paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne vedette porno Stormy Daniels avant l'élection présidentielle de 2016. Les procédures ont débuté aujourd'hui avec le choix du jury qui devrait s'étendre sur plusieurs semaines. Voici Richard Châteauvert, correspondant à New York.
Des milliers de candidats jurés vont défiler par groupe. Ils devront répondre à 42 questions. On ne leur demandera pas s'ils ont voté ou non pour M. Trump, mais plutôt quels médias ils consomment, s'ils sont supporters ou adhérents des groupes d'extrême droite QAnon, Proud Boys ou Oath Keepers, ou du groupe d'extrême gauche Antifa.
La crise des opioïdes continue de sévir au Canada alors que le nombre de décès accidentels par surdose est en hausse. En 2021, le quart des décès survenus chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine au pays ont été causés par des opioïdes, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui dans le journal de l'Association médicale canadienne. Les précisions de Mathieu Paquette.
Selon des chercheurs de l'Université de Toronto, le nombre de décès attribuables aux opioïdes a plus que doublé en 2 ans au Canada, passant d'environ 3 000 en 2019 à plus de 6 200 en 2021. Les auteurs de l'étude ont relevé des augmentations majeures chez les trentenaires dans les prairies, alors que le nombre de décès liés à des surdoses a quintuplé au Manitoba, a presque triplé en Saskatchewan et a plus que doublé en Alberta. Au Québec, 161 décès étaient attribuables aux opioïdes en 2019, mais ce nombre est passé à 369 en 2021. Selon l'autrice principale de la recherche, Tara Gomez, cette forte augmentation du nombre de surdoses accidentelles démontre que les provinces doivent agir plus rapidement pour lutter contre la crise des opioïdes. Ici Mathieu Paquette, de la presse canadienne.
Le milliardaire canadien Robert Miller, dénoncé par plusieurs femmes pour avoir eu à sa disposition un réseau de prostitution juvénile, aurait déjà été visé par les autorités en 2009. Des détectives privés embauchés par son ex-épouse ont noté à cette époque des allées et venues de nombreuses jeunes femmes qui se rendaient chez lui, dont certaines étaient contrôlées par des gangs de rue. Ils ont fait part de leurs observations à la police qui a déclenché une enquête. Le dossier s'est rendu jusque sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales en 2010. Le DPCP a cependant jugé la preuve insuffisante pour déposer des accusations, comme l'indique le journaliste d'enquête à la presse, Vincent Larouche.
Il semble nous indiquer qu'il y a un élément qui est survenu après qu'on ait avancé la preuve, qui leur faisait dire « on n'a pas de chance, c'est garanti qu'on perd. Et si on ne pense pas qu'on peut gagner, il ne faut pas commencer. » Maintenant, ils insistent beaucoup pour nous dire « il y a des nouvelles informations qui sont rentrées depuis un an. Le dossier est très actif et c'est possible qu'on révise notre décision. »
Le fabricant automobile Tesla annonce le licenciement de 10 % de ses effectifs à travers le monde. Plus de 140 000 personnes travaillent pour le fabricant automobile. L'annonce survient alors que les ventes sont au ralenti et le titre de Tesla en bourse a d'ailleurs perdu plus de 30 % de sa valeur depuis le début de l'année pour atteindre 171 $. Des analystes estiment que l'entreprise a terminé sa phase de croissance et tente de réduire sa structure de coûts avant de lancer de nouveaux modèles. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris prévue sur la scène pourrait être déplacée si les risques liés à la sécurité sont trop élevé. C'est ce qu'a soutenu le président français Emmanuel Macron à une centaine de jours du coup d'envoi des Jeux de Paris. En entrevue, le président Macron a mentionné que la cérémonie sur la scène est toujours à l'horaire, mais que d'autres options sont prêtes au besoin. La France a relevé son niveau d'alerte de sécurité à son plus haut niveau après l'attaque meurtrière contre une salle de concert en Russie survenue en mars. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Le Saloon.
Salut, c'est Nicolas Prévost. Ça me fait plaisir de vous retrouver samedi et dimanche pour la seule émission dédiée à cette industrie musicale dominante au Québec maintenant. Et je vais vous faire jouer les plus grands succès de la musique country.
Écoutez Le Saloon.
Le Saloon.
Tous les samedis et dimanches.
Avec Nicolas Prévost. FM 93. Au Québec, vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Grosse question pour le début de cette deuxième heure aujourd'hui. Pour ou contre le retour du crayon et de la bonne vieille craie en classe? Pourquoi cette question? Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour revenir à un mode d'enseignement plus traditionnel, plus conventionnel, compte tenu des effets néfastes liés à l'utilisation du téléphone cellulaire en classe ou encore des tablettes. J'ai dit, il y a de plus en plus d'experts qui s'élèvent pour plaider de ce côté. Il faut savoir que certains pays dans le monde, dont la Suède, entre autres, le Danemark, les Pays-Bas, ont décidé, après avoir appuyé sur l'accélérateur pour ce qui est des nouvelles technologies en classe, ont décidé de revenir à des méthodes plus traditionnelles. Par exemple, en favorisant le retour du crayon, de la craie, mais également d'un plus grand nombre de livres dans les écoles. Notre invité, vous le connaissez, c'est notre ami Emilio Norcia, ex-directeur d'école. Heureuse de vous retrouver, cher Emilio. Bon lundi.
Bonjour Nathalie, ça va bien?
Ça va très bien, merci Emilio. C'est un gros sujet aujourd'hui, pour ou contre le retour du crayon et de la craie en classe, puis avec la craie bien sûr, le beau vieux tableau noir. Votre réponse à ça spontanément, Emilio?
Ben, spontanément, je pense qu'il faut avoir un juste équilibre. Le tableau noir, là, on recule. En parlant de tableau noir, de craie, on a banni de nos écoles c'est ce genre d'activité pédagogique il y a fort longtemps. Je ne dis pas que dans certaines écoles, on n'a pas de tableau noir ni de craie. C'est une minorité qui l'utilise. Mais il faut pas oublier qu'il y a à peu près une dizaine d'années, on a pris un mouvement, ce qui s'appelle le développement technologique et les tableaux blancs dans toutes nos écoles. Alors, je me dis, aujourd'hui, on ne demandera pas nécessairement, j'espère, qu'on revienne avec des tableaux noirs dans toutes les écoles et de la craie blanche.
Ouais, mais les tableaux blancs en passant là, ça crée un gros buzz à l'époque, mais là je sais pas s'il y a encore beaucoup d'écoles qui utilisent les tableaux blancs, les fameux tableaux blancs, parce qu'après les tableaux blancs sont arrivés les tablettes entre autres.
La question Nathalie, si vous le permettez, c'est
oui.
Comment qu'on utilise des appareils technologiques qui sont à notre portée? C'est ça la grande question. C'est pas le tableau noir ou la craie blanche. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment qu'on l'utilise? Est-ce que nos enseignantes et enseignants sont assez habilités à utiliser ces appareils-là technologiques? Parce que veut pas, aujourd'hui, partout où nous sommes sur la planète, ce sont tous des appareils technologiques. Les élèves, ils apprennent très bien, même s'il y a un tableau blanc dans la classe, parce qu'ils peuvent eux-mêmes aller écrire sur le tableau blanc numérique. Alors, je pense que la question, c'est comment on utilise ces appareils-là technologiques auprès de nos élèves. Alors, l'enseignant, lui, il est habilité, lui, à démontrer l'utilité de cette technologie-là. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que si on recule en arrière avec des craies, des tableaux noirs, je me dis, on fait fausse route, là. On faut aller de l'avant, là.
Mm-hmm, je comprends. Il faut être de son temps, comme on dit. Mais je donne l'exemple de la Suède qui a appuyé sur l'accélérateur en 2017, là, en équipant à peu près toutes les classes du pays, là, de portables, de tablettes et tout. Quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que les enfants avaient de la difficulté à écrire. Et je consultais une étude, une synthèse, en fait, faite par l'Institut national de santé publique. Ça date de novembre dernier, là, novembre 2023. Et ce qu'on dit, c'est, en fait, il semble pas y avoir énormément milieu davantage lié à l'utilisation du cellulaire, par exemple, ou des tablettes. On dit que la prise de notes numériques, par exemple, n'entraînerait aucun bénéfice à l'apprentissage par rapport à la prise de notes manuscrites. Ça veut dire que des élèves qui écrivent avec leur portable, avec une tablette, il y aurait moins de bénéfices, en fait, aucun bénéfice par rapport au fait d'écrire à la main. Ça, c'est un exemple très, très précis, Emilio. Il me semble, puis il y a un professeur qui nous a écrit, Simon, que je salue d'ailleurs, qui a remarqué que les muscles des mains des enfants, compte tenu qu'ils ne se développent pas ou peu avec des tablettes, fait en sorte que ça a un impact sur leur motricité fine. Tu sais, un enfant, ça quoi? Ça prend un crayon, ça colore, ça fait des dessins. Mais là, c'est comme si là ils devenaient, d'une certaine façon, on les privait d'une motricité qui est essentielle dans la vie.
Moi, je suis d'accord avec l'interlocuteur Simon, c'est-à-dire qu'il faut avoir un juste milieu. Il n'y a rien qui empêche un enseignant d'avoir des activités pédagogiques avec un crayon en classe. Que ce soit en première, deuxième, troisième année du primaire et autres, mais même au secondaire. Encore là, il faut que la personne, l'enseignant, qui est le responsable, puisse dire aujourd'hui, on fait une activité en utilisant le crayon. Il a raison. On constate, d'après les études, que certains individus, certaines personnes, ont une difficulté au niveau de la motricité fine à manipuler le crayon. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut faire attention, il faut avoir un juste milieu, il faut avoir un équilibre dans tout ça. Alors, moi, je me dis toujours, on n'empêchera pas un élève d'écrire. Alors, il faut juste faire attention à l'utilité qu'on en fait d'appareil. On n'est pas obligé de prendre un appareil, un portable à la classe constamment. On peut très bien faire une activité pédagogique à l'aide d'un crayon et une feuille, je m'excuse, parce que ça se fait encore aujourd'hui. Alors, je me dis, quand on demande à des parents, dans le matériel scolaire, d'acheter 26 crayons HB à la mine, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui se fait dans la classe avec des crayons.
Oui, mais oui. Mais on a l'impression que dans certaines écoles, on a poussé un peu trop fort sur le bouchon pour ce qui est d'utilisation des nouvelles technologies. Est-ce que c'est pas ça, dans le fond, le drame? C'est qu'on est allé un peu trop loin.
Tu soulèves un point important. On a fait la promotion de la technologie parce que les écoles entre elles, faut pas se le cacher, hein, je vais ouvrir une grande parenthèse, c'est-à-dire qu'on veut promouvoir l'école publique. Alors, c'est sûr qu'une école qui est avant-gardiste va dire, moi, je vais promouvoir la technologie en offrant des programmes spécifiques technologiques. Alors, c'est sûr et certain qu'un parent qui est adepte de la technologie va dire, dans cette école-là, ils offrent la possibilité d'utiliser des appareils, des tablettes et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas que nécessairement, on peut utiliser le crayon. Il se peut qu'entre écoles eux-mêmes, il y a une différence technologique.
OK. Mais n'empêche qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire, là, on est allé trop loin. Et puis, comme vous l'avez dit, Emilio, il faut revenir à un certain équilibre. Mais est-ce qu'on est prêt à revenir à cette espèce d'équilibre? Concrètement, en Suède, là, ils ont décidé d'acheter beaucoup plus de livres, par exemple. Puis là, ils ont dit aux élèves, aux enfants, ben là, vous allez lire des livres papier, là. Parce que lire des livres papier, c'est meilleur pour la mémoire que si on lit un livre, par exemple, sur une tablette. Est-ce que vous croyez que le Québec devrait s'inspirer de la Norvège, par exemple?
Nathalie, encore une fois, les informations que j'ai, moi, présentement, c'est au Québec, présentement, il y a des périodes consacrées à la lecture obligatoire.
OK. Mais est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a assez, Emilio? Je ne sais pas, ça représente combien? Il n'y en a jamais assez?
Nathalie, il n'y en a jamais assez. Okay. Dans le cursus pédagogique, nécessairement, il y a la lecture, il y a les mathématiques, il y a les arts plastiques. Tout est calculé en minutes. Mais je peux vous dire une chose, que les enseignantes et enseignants consacrent beaucoup de temps à la lecture parce qu'ils savent qu'au niveau littérature, c'est important de lire. Parce que c'est un fait. Alors, c'est pour ça que je dis oui, c'est important de revenir. Il n'y a rien n'empêche un enseignant, une enseignante et un enseignant d'avoir des livres dans sa classe, de créer une bibliothèque. Mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on entend et ce qui se vit sur ce qu'on dit dans la réalité.
Parce qu'au Danemark, je parlais de la Suède tantôt, eux autres, c'est moins de temps d'écran, plus de livres. Au Danemark, ils ont annoncé en juin 2023 l'interdiction du recours aux écrans pour les enfants qui sont âgés, tenez-vous bien, de moins de 6 ans. Dans tous les établissements dits préscolaires. Alors ici, la tablette, en principe, là, j'ai en théorie, la tablette est interdite pour les enfants de 2 ans et moins. Je dis en théorie parce que il y a bien des parents qui malheureusement l'utilisent pour leurs tout petits, ce qui est absolument pas recommandé. Mais dans le cas du Danemark, là, on a poussé encore plus loin en disant non, tout recours aux tablettes sera interdit. Ça peut sembler drastique, Emilio, mais en même temps, là-bas, puis on cite souvent les pays scandinaves comme des références, des États extrêmement progressistes. Est-ce que c'est pas là une des clés? C'est-à-dire qu'on pose des gestes, faudrait peut-être poser des gestes plus drastiques dans nos écoles.
Ben écoutez, on peut agir drastiquement. Moi, je suis d'accord pour dire, ben oui, à un certain âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas nécessaire d'avoir une tablette parce que, comme disait si bien le docteur Chiquan, dès le jeune âge, il y a un développement du cerveau qui doit être fait. Pas par une tablette, mais par un regard.
Oui.
Manipulation nécessairement de motricité fine. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, je me dis, à quel âge qu'il est nécessaire vraiment de commencer à manipuler un appareil? C'est là où on dit l'enseignant est le premier intervenant pour dire, à partir de tel âge, on va y aller avec modération. Mais ça se fait déjà dans certains milieux, parce que, veux pas, les études, les gens les prennent en considération et disent, moi, je vais faire attention dans ma classe, je vais moins utiliser d'appareils technologiques. Mais n'empêche que dans toutes nos écoles, présentement, on est tous dotés d'appareils technologiques et de iPads et de tableaux blancs. Alors, c'est sûr et certain, en disant du jour au lendemain, on va faire un pas de recul, il va falloir regarder attentivement